Bonne chance, bonne route, tes blessures font des croûtes. Et peut-être qu'à ton tour, tu prendras la cloque quand te viendra le dos devant d'une piqûre d'amour, d'une piqûre de gosse sur le chemin des bosses sur le chemin. Tiens-lui la main.
Peut-être pas un titre de vous, mais quelqu'un que vous aimez particulièrement en ce moment. Je vous prends comme ça au dépourvu. J'aimerais connaître vos goûts.
Voulez-vous passer, tenez une chanson de Renaud.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Congrès du Parti communiste, lorsque le cas Renault fut évoqué devant les dirigeants, Léonid Brejnev déclara « Je ne dirai qu'un mot, ta gueule ». Renault lui répliqua aussitôt très finement « La tienne avant la mienne ». Dès lors, la détente était compromise. En mai 1980, Renault répondit dans la Pravda par un article laconique. Je cite, c'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui que ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu, les pouces, mes gaules et mes feux. Les ringards, les folles que les journaleux. Qu'à mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé, je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc, d'un bistrot des plus cradingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos. Tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon, je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De façon, je sens pas pour ces blaireaux, et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or, un Olympia pour moi tout seul, qui me feront virer le bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que des mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur cadeau. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là, je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de crasse. Tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue. Et votre République, moi je la tringle, mais bordel. C'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je fous les pieds dans une manif, sans un outchak ou un cocktail. Allons bouillir comme à Saint-Lazare. Plus de slogans face aux flicards, mais des fusils, des pavés, des grenades. Je les contre la répression en défilant bastination. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux népeux et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Valère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc. Un bistrot n'est plus cradingue, mais faites gaffe. J'ai mis la main sur mon flingue.
Le Ferry Club, c'est votre tranche hebdomadaire de libre entre 16h et 17h tous les mercredis sur cette antenne Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste que vous écoutez sur le 89.4 FM. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous le savez, j'ai pris le parti cette année d'offrir à Léo quelques jours de vacances. Hein, il les a bien mérités, donc je lui ai proposé d'aller où il voulait. Hein, et puis on va s'intéresser pendant ce mois d'août à d'autres chanteurs que Léo, d'autres interprètes que Léo, d'autres auteurs et compositeurs que Léo. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, pour parler d'un de ces chanteurs que je vais te laisser annoncer, j'ai le grand plaisir de recevoir mon collègue Max de l'émission Il y a de la fumée dans le poste que vous retrouvez un dimanche sur deux sur Radio Libertaire. Bonsoir Maxou.
Salut Davou, salut à toutes et à tous.
Comment vas-tu mon grand?
Bon, très bien, je suis très très content d'être là avec toi, hors fumée dans le poste, dans le cadre du Ferry Club, ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps, bah, tu étais là le jour de la première,
ouais, rappelle-toi. Ouais, je m'en souviens très bien, c'était un très agréable moment de lancer cette émission avec toi.
Et c'est resté dans mon cœur parce que ta présence ce jour-là m'a fait beaucoup de bien.
Ça, ah oui, ça première restera. c'est jamais évident, ouais, ah, mieux vaut pas être trop tout seul quand même, je
j'étais
crois.
J'étais dans mes petits souliers, hein, je dois bien le dire.
Tu me rends l'appareil un dimanche sur deux à 18h30 jusqu'à 20h30. Depuis des années, donc je te dois bien ça.
Alors Max, je t'ai proposé il y a quelques jours de cela, enfin il y a quelques semaines maintenant, je t'ai soumis mon idée, ouais, de proposer une sorte de carte noire, hein. Ils parlent de carte blanche chez les autres, nous on est chez les anards, donc on va parler de quelques sortes de carte noire. Et puis je t'ai dit, bah écoute, voilà, j'aimerais bien, pendant le mois d'août, qu'on s'intéresse à d'autres auteurs que Léo, d'autres chanteurs que Léo. Et je t'ai dit, bah écoute, tu as carte noire. Quel est donc le chanteur dont tu voudrais nous parler aujourd'hui?
Alors bah après une longue réflexion qui a dû durer environ un dixième de seconde, l'idée s'est imposée à moi, il n'y avait pas aucun autre choix alternatif qui m'est venu dans la tête quand je réfléchissais à ça, même après cette première impulsion, bah c'est Renaud. Quoi. Je suis ravi de, grâce à toi, pouvoir parler un peu de Renaud, un chanteur qui a beaucoup compté dans ma construction à un âge un peu charnière, à l'adolescence, quoi, dans ma construction d'individu, plutôt de philosophie libertaire et écologiste et pacifiste. Parce que je t'apprends rien, mais si vous n'écoutez pas, il y a de la fumée dans le poste, vous êtes peut-être pas au courant, donc voilà. Ah bah, je suis animateur sur Radio Libertaire, c'est pas par hasard non plus, mais ça vient peut-être un peu de ça, justement, aussi, je me suis grandement forgé toutes ces idées par l'écoute de Renaud intensive à mon, ouais, adolescence.
Ouais. Ouais,
ça me fait très très plaisir donc de pouvoir parler un peu de mon Renaud à moi, qui est sans doute pas forcément le Renaud de tout le monde.
Voilà, tu vas nous présenter ton Renaud à toi avec ta sensibilité et puis effectivement du coup nous proposer probablement des chansons qui ne sont pas les plus communes, les plus courantes de Renaud.
On va essayer d'éviter les gros tubes, de toute façon c'est pas ce que je préfère en général. Donc, mais oui, on va essayer de proposer des choses un peu moins connues, un peu moins populaires, mais sans doute un peu plus personnelles.
Alors on va peut-être commencer par le début, la manière finalement dont tu as découvert notre chanteur énervant, c'est un de ses surnoms.
Bah, j'aime bien cette histoire parce que d'abord c'est arrivé un peu sur le tard. Moi, je suis un amateur de musique depuis toujours. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de disques et dans plein de styles différents. Vraiment, j'ai baigné là-dedans. Mais Renaud, je suis passé complètement à côté jusqu'à mon adolescence. Complètement. Bon, bien sûr, j'avais entendu les standards qui passaient à la radio et tout ça dans les années 80 à la télé. Je voyais qui était Renaud. Je connaissais sans doute 2-3 titres. Marche à l'ombre, forcément. J'avais vu le film avec Michel Blanc, Gérard Lanvin. Voilà, je connaissais les quelques standards, mais bon, ça me touchait pas plus que ça, ça me laissait indifférent, ça faisait pas partie de mon monde, jusqu'à ce que je rentre au lycée. En seconde, un camarade de classe que je connaissais pas avant, parce qu'il venait d'un collège à l'extérieur de ma ville, est arrivé dans ma classe de seconde. Il s'appelle Rémi Barberet, ce mec-là. Alors, on a tout de suite sympathisé, c'était vraiment un mec en or, je l'ai beaucoup tout de suite apprécié, ce mec-là. Et donc, très rapidement, pendant notre année de seconde, il m'a prêté, alors lui, écouter des cassettes.
Ah oui, bah oui.
Il avait peut-être pas encore de lecteur laser à l'époque. On doit être en 1990, je pense.
D'accord.
Il me prête une première cassette de Renaud, c'est ma compile volume 2. Et là, alors là, coup de foudre direct. Je mets ça. Alors, je pense que j'ai eu du bol qu'il me prête pas. D'abord, ma compile volume 1, parce que quand, en préparant l'émission, j'ai regardé les listes de chansons que contient chacune de ces deux compilations de Renaud, qui étaient les compilations de l'époque assez populaires, quoi. Le premier, c'est vraiment tous les tubes, les standards, quoi. Marche à l'ombre, Blaise Béton, etc., etc., It is not because you are, viens chez moi, j'habite chez une copine, blablabla. Bon, je l'ai bien aimé quand il me l'a prêté ensuite. Mais il m'a d'abord prêté le volume 2, qui contient plutôt des chansons nettement moins connues, mais quand même excellentes, quoi. Et je me suis régalé à l'écoute de cette cassette quasiment directement, quoi. Dès le début, je suis tombé vraiment très amateur. Je me suis rendu, ça me parlait, quoi.
Ouais,
ça me parlait à fond, à divers degrés. Cette cassette, elle est toujours super, quoi. Il y a plein de titres que j'aime énormément, et notamment des titres qui sont très riches dans cette espèce de sens de l'humour qu'a Renaud dans beaucoup de chansons. Un truc qui me plaît aussi depuis toujours, c'est son sens de l'autodérision et tout ça. Vraiment, cet humour très particulier qu'il développe dans plein de chansons, Renaud, c'est très présent dans la sélection de ma compile volume 2, et ça m'a immédiatement séduit, clairement. Et bon, bah, il y a par exemple ma chanson « L'aura pas plu », tu vois, ce genre de morceau-là, « Je suis une bande de jeunes », Germaine, pour l'ambiance à la fois populo, accordéon, mais aussi pour le côté décalé et rigolo des paroles, etc., etc. Amoureux de Paname, ma société, tu m'auras pas. Tu vois, il y a tout ça sur ma compile volume 2. Donc moi, ouais, je suis tombé, mais red dingue de ce Renaud-là, quoi.
Ouais.
Du Renaud des 5-6 premiers albums, mais hors standard, hors ceux qu'on a l'habitude d'entendre, les autres morceaux de ces 5 ou 6 premiers albums, qui, je dois l'avouer, 30 ans après, restent mes albums préférés, hein. Renaud, personnellement, plus on avance dans la discographie, moins j'aime, on va dire. J'adhère tout à fait jusque aux années 90, il y a pas de problème avec ça, mais de moins en moins, quoi. Je veux dire, il y a de moins en moins de choses qui me séduisent par album, ça devient un petit peu plus compliqué plus tu avances dans la discographie, quoi.
Pour quelles raisons t'as identifié ça, les raisons qui font que tu t'éloignes un peu de lui?
Le côté moins spontané. En fait, moi, c'est comme ça avec quasiment tous les artistes, musiciens, groupes que j'écoute, quoi. Ce que j'aime, c'est les premiers albums, quand t'as vraiment la spontanéité totale, quand il y a aucune recette encore qui a eu le temps de se mettre en place, quand on est vraiment dans l'expression artistique pure, qui n'est pas encore entravée par quelques considérations commerciaux, éditoriales, tu vois, et tout ça, quoi. Je pense que ça tient grosso modo à ça. Et puis avec Renaud, faut bien l'avouer aussi, comme avec d'autres, hein, c'est pas le seul, un tarissement de son inspiration qui petit à petit se fait sentir, et puis se fait énormément sentir, passer un certain cap que je situerais à Putain de Camion, moi, personnellement.
Ouais.
C'est à partir de là que je commence à avoir vraiment du mal, où là, je peux pas écouter l'album en entier.
Ouais,
j'en saute
un
certain nombre, et ça devient systématique après, à une exception près ou deux, dans tous les albums qu'on suivit.
D'accord. Putain de Camion, c'est sur celui-là qu'il y a Socialiste et...
Ouais, tout à fait.
C'est
celle-là.
Oui, bah oui.
Mais vraiment, donc, pour en revenir à mon coup de cœur, l'année de mon entrée au lycée, je me souviens très bien, grâce à Rémi, c'est vraiment, en premier lieu, ce qui m'a tout de suite touché, c'est cet humour, quoi. J'écoutais ça dans ma douche ou dans mon bain, et je me marrais. Et au bout de 5-6 écoutes, j'ai toujours été comme ça, je mémorise très vite les paroles des chansons, je me mettais à brailler sous ma douche ou mon bain, les chansons avec Renaud qui passaient dans mon poste à fond, je restais tout le temps de la cassette dans la salle de bain, et je me marrais tout seul dans ma salle de bain. J'adorais ça. Et si j'ai bonne mémoire, alors j'ai pas vérifié avant de venir, mais si j'ai bonne mémoire, cette cassette, elle commence par un morceau emblématique du côté humoristique, parodiste de Renaud, mais qui est en plus assez particulier parce que il y développe un peu tout ce qui va devenir ses petits tics à Renaud. C'est le premier Tintin, par exemple. Ouais. Mais aussi, il parodie énormément Ennio Morricone dans ce morceau-là. Et moi, Ennio Morricone, c'est quelqu'un qui me touchait énormément depuis déjà pas mal d'années. Ce morceau, donc, qui ouvre ma compile volume 2, si j'ai bonne mémoire, peut-être le premier morceau, donc, que j'ai écouté quand j'ai mis la cassette, si jamais Rémi me l'avait prêté, avec la face A bien rembobinée, tu vois, c'était Les Aventures de Gérard Lambert. Et j'avoue, je m'en suis toujours parmi de ce bon sang de morceau. Et, si tu veux bien, j'aimerais aussi écouter toujours tiré de cette cassette. Bon, ça vient de l'album Laisse-Béton, qui est le meilleur album de Renaud, n'ayons pas peur des mots, mais qu'on trouve aussi sur ma compile volume 2. C'est Adieu Minette, mm-hmm. où il exprime en plus des idées sur un ton très sarcastique. Qu'il a, enfin là, il y a tout, quoi. Il y a les idées, il y a l'attitude, il y a tout. Il y a la lutte des classes, il y a tout ce qui commençait à énormément me séduire du haut de mes 15 ans à l'époque. 15 ans, ouais, ça doit être ça, voilà. Quand j'ai découvert Renaud, donc grâce à mon ami Rémi, je lui ai déjà dit, je crois, mais si jamais il nous écoute, qu'il reçoive une fois de plus ma reconnaissance éternelle pour ça. C'est comme ça que j'ai découvert Renaud et voilà. C'est vraiment une source de grand bonheur dans ma vie d'adolescent. Et ensuite d'adulte et encore aujourd'hui.
Avril 77 dans la banlieue où il fait nuit. La petite route est déserte, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson. Ça sent la peur, ça pue la mort, j'aime bien cette ambiance, pas vous, ah bon. Voici l'histoire proprement dite, voici l'intrigue de ma chanson. Gérard Lambert roule très vite, le vent s'engouffre dans son blouson. Dans le lointain, les bourgeois dorment comme des cons. Lorsque soudain survient le drame, juste à la sortie d'un virage, y'a plus d'essence dans la bécane, Gérard Lambert est fou de rage. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Il met sa mob sur la béquille, s'assied par terre et réfléchit. Dans cette banlieue de bidonville, y a pas une pompe ouverte la nuit. Dans le lointain, y a une sirène qui s'évanouit. Qu'est-ce que je vais faire, bordel de lieu? Je vais quand même pas rentrer à pied. Plus s'angoisse, moins ça va mieux. Quand soudain lui vient une idée, je vais siphonner un litre ou deux dans le réservoir de cette bagnole. Et puis après, je lui crève les pneus, comme ça gratuitement, par plaisir. Faut bien que je me défoule un petit peu, je suis énervé. Une fois son forfait accompli, Gérard Lambert va repartir. La mobilette veut rien savoir, c'est le bon Dieu qui l'a puni. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Alors pendant une demi-heure, dans son moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis jusqu'aux coudes. Dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude. À ce moment-là, mec arrive, un petit loubard aux cheveux blonds, et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, laisse-moi un mouton. Une femme à poil ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette.
Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il me semble. Alors d'un coup de clé à molette, bien placé entre les deux yeux, Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Médine. Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. C'est la morale de ma chanson, moi je la trouve chouette. Pas vous ? Ah bon ?
Il y a le feu dans le studio, je continue.
Sous tes cheveux, beaucoup trop blonds, décolorés, ça va de soi. T'avais une cervelle de pigeon, mais j'aimais ça, au fond de tes grands yeux si bleus. Trop maquillé, ça va de soi. T'avais quelque chose de prétentieux que j'aimais pas, que j'aimais pas. J'avais la tignasse en bataille et les yeux délavés. Je t'ai culbuté dans la paille. T'as pris ton pied, adieu fillette. Nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette. Bonjour à tes parents. Tu m'as invité à Deauville, dans ta résidence secondaire. Je me suis fait chier comme un débile, dans cette galère. Tu m'as présenté tes copains, presque aussi cons que des militaires. C'étaient les vrais républicains, buveurs de bière. Le grand type qui se croyait malin. En me traitant d'anarchiste, je regrette pas d'y avoir mis un pain. Avant qu'on se quitte, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Et quand t'es rentré à Paname, super fier de ton bronzage, t'as pas voulu poser tes rames sur le rivage. C'est une image, tu m'as téléphoné 100 fois pour que je passe te voir à Neuilly, dans ton pavillon près du bois. Et j'ai dit oui, et j'ai dit oui. Je suis venu un soir à ta surboom avec 23 de mes potes. On a piétiné tes loukoums avec nos bottes. Adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette. Bonjour à tes parents. Faut pas en vouloir aux marioles, ils ont pas eu d'éducation. À la Courneuve, y a pas d'école, y a que des prisons et du béton. D'ailleurs, ils ont pas tout cassé, ils ont chouré avec l'argenterie. Ton pote qui faisait du karaté, qu'est-ce qu'on y a mis, qu'est-ce qu'on y a mis. Ton père, je l'ai traité d'enfoiré. Excuse-moi auprès de lui, si j'avais su que c'était vrai, j'aurais redit adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Maintenant j'ai plus envie de causer, tu devrais déjà avoir compris qu'on n'est pas né du même côté. La bourgeoisie, arrête une minute de chialer. Tu vois quand même que je t'oublie pas. Je te téléphone en PCV de Nouméa, ça fait 3 semaines que je suis bidasse. L'armée c'est une grande famille, la tienne était moins dégueulasse. Follement la quille, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents.
Adieu Minette, à l'instant même dans le Ferry Club sur Radio Libertaire. Et cette semaine, nous nous intéressons au chanteur Renaud par ton intermédiaire, Max.
Ouais, bah comme je le disais, Renaud, moi ce qui m'a touché en premier lieu, c'est quand même son sens de l'humour très, très pointu, son sens du sarcasme, de la caricature, son autodérision, c'est sûr, c'est un gros, gros point dans le charme que Renaud a eu sur moi dans mes jeunes années. Mais l'autre élément déterminant, évidemment, bah c'est son style, bien évidemment, son côté poète, parce que pour moi c'est vraiment un poète.
Oui, son style, quand tu dis son style, c'est son style d'écriture.
Ouais, son style d'auteur, son style d'auteur avant tout.
C'est pas son bandana.
Non, c'est pas dans son style vestimentaire, c'est son style d'auteur. Parce que quand même, hein, Renaud, faut pas négliger cet aspect-là, c'est quand même un très bon versificateur, un champion de la rime et de la métaphore. Et il nous fait ça donc dans un registre on ne peut plus argotique, populo-parisien, qui moi me parle énormément. J'ai toujours aimé les différents argots, et notamment l'argot parigo, évidemment. J'écoutais déjà Brassens à l'époque, et donc ça me touchait beaucoup, beaucoup, et le fait d'arriver à trousser des petits textes comme ça, si bien ciselés, à la métrique parfaite, avec ce lexique-là, avec cet imaginaire-là, cette culture-là, ce côté vraiment argot, très bien mis en poésie, vraiment, moi, ça me plaisait énormément. Je te disais, ma compile, alors le volume 1, il y a les tubes, mais une chanson comme Laisse Béton, à cette époque-là, moi, je te disais en préambule, moi, j'étais complètement indifférent à tout ça, j'avais jamais prêter attention à ça. Ouais. Quand t'écoutes Laisse Béton, ça a beau être un tube que t'as écouté vite fait à droite à gauche à la radio, quand tu l'écoutes pour de vrai la première fois et que tu prends conscience de la qualité d'écriture de la chanson, c'est quand même pas rien, quoi. Moi, ça m'avait vraiment marqué, et ainsi de suite. Ouais, ça m'a vraiment... C'est un élément déterminant, je pense, dans le fait que Renaud m'ait séduit aussi rapidement et de façon aussi importante en un rien de temps, quoi. Vraiment grâce à ces deux cassettes, quoi, que vraiment ça s'est passé. Et après, donc, j'ai commencé à débobiner la pelote. Et alors là,
ouais, quand même.
Ça dure un certain temps. Ça m'a occupé au moins les 8-10 années qu'on suivit. Bon, je faisais pas que Renaud, bien sûr, hein, tu me connais, moi je suis très éclectique musicalement, donc il n'y avait pas que Renaud pour moi à cette époque-là, mais comme Renaud m'avait vraiment touché personnellement en profondeur, j'ai pris soin de tout dérouler, d'écouter album par album, mis dans le contexte chronologique, social, politique des différentes époques et ainsi de suite. Enfin, vraiment, je me suis intéressé de très près à Renaud, d'autant plus qu'à la même époque, il participait à Charlie Hebdo.
Oui.
On était quelques années après la relance de Charlie Hebdo, qui a dû avoir lieu en 92, je crois, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, Renaud a financé en partie cette relance de Charlie à l'époque. Et il écrivait dans Charlie, Renaud. Moi, je lisais Charlie assez assidûment à cette époque-là. Là, j'étais plus au lycée, ou alors c'était mes dernières années de lycée. Voilà, la terminale et le début de mes années de fac. Je lisais Charlie Hebdo de manière régulière, et notamment parce que Renaud y écrivait un billet, une chronique, toutes les semaines, et que c'était formidable. Ouais. Moi, je trouvais ça génial. Sa prose était aussi efficace que ses vers, exactement dans le même style, dans le même registre. Il nous racontait sa vie, il nous donnait son point de vue sur tout un tas d'événements, du plus important au plus anecdotique, mais avec ce regard à la Renaud, comme dans ses chansons, qui, moi, me plaisait vraiment énormément. Et ouais. Donc, je me suis mis à développer une grande tendresse pour le bonhomme, pour le personnage de Renaud, et ça a duré vraiment un certain temps, jusqu'à sa mort, comme j'aimais à le dire, dans les années 2000, en l'an 2000, si j'ai bonne mémoire, hein, je crois que c'est cette année-là qu'il a cassé sa pipe, Renaud, si j'ai bonne mémoire.
On en reparlera de ça, si tu veux bien, on dira peut-être un mot à ce sujet-là à la fin de l'émission.
Voilà, en tout cas, ouais, vraiment, le Renaud que j'aime, c'est le Renaud, le Renaud poète populaire, le Renaud gouailleur, le Renaud...
Titi,
à la fois Titi et Loubar, parce que les deux personnages de Renaud me plaisent autant l'un que l'autre, bien, même si c'est bien sûr le Loubar qui a pris le dessus dès le deuxième album, et tant mieux, je veux dire, parce qu'il y a tellement de chansons merveilleuses qui découlent de cette inspiration-là, de cette tradition-là, que ça aurait été dommage de passer à côté en s'enfermant vraiment sur le personnage Titi qui développait au moment de son premier album et juste avant. Mais vraiment, et donc ce côté populo, quoi. Moi, je vais l'appeler comme ça au sens noble du terme, hein, entendons-nous bien. Hein, c'est rien de péjoratif dans ma bouche, bien au contraire, quoi. Ça m'a vraiment énormément séduit, jusqu'à un truc. Moi, je viens du Berry, quand même, tu vois, où il y a une tradition folklorique assez importante, oui. Où dans les balles, certains sortaient encore à l'époque l'accordéon, la vielle à roue et tout ça, et d'entendre Renaud chanter ses chansons super drôles, super loubardesques et tout ça, sur fond d'accordéon, de musette, de java. Ça aussi, c'était tout nouveau pour moi, jeune auditeur qui écoutait plutôt du rock anglais à l'époque, quoi, essentiellement, au sens large, mais qui écoutait surtout du rock anglais avant d'écouter Renaud. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça. Bah bon, je le savais déjà un peu grâce à Jacques Brel essentiellement, mais avec Renaud, je me suis rendu compte qu'on pouvait en faire un truc génial et que vraiment c'était super. Ça, j'ai vraiment adoré ce côté bal populaire, ce côté accordéon, java, qui est peut-être un des premiers parallèles qu'on peut faire là, puisqu'on est dans le Ferré Club quand même entre Renaud et Léo. Ce côté-là qui m'a séduit beaucoup plus tard chez Léo. C'est un des premiers éléments qui m'a séduit chez Renaud là, dans mes années adolescentes que je décrivais tout à l'heure.
Le côté chanteur populaire, chanteur au sens noble du terme, hein, dans populaire, populo, au sens noble du terme.
Tout à fait, l'héritage de la chanson réaliste.
Des chansonniers, en fait, ouais, quoi. Tout à fait, bien sûr.
Comme Brassens, comme Léo.
Bien sûr.
Et pour
ouais.
moi, voilà, le troisième très grand auteur, compositeur, interprète qui est héritier de cette tradition-là, ouais. c'est Renaud le troisième pour moi, ouais.
Ah bah du coup on va peut-être s'écouter une chanson dans cette fibre si tu veux bien.
Ah bah oui, bon ça manque pas. Et alors toujours tiré de ma compile, je sais plus si c'est le volume 1 et 2 ou 2, mais je pense que c'est encore une fois le 2, tiré à la base de l'album Magonzès en 79, et, c'est mon dernier bal que j'ai toujours adoré, que j'adore encore. Et puis on dira peut-être un mot du petit bal du samedi soir aussi, un album tout à fait particulier dans l'œuvre de Renaud après ce petit passage.
Et les copains, qu'est-ce qu'on fait ce soir en bossinage?
Non, laisse béton, j'ai une meilleure idée. Au Cinoche de Créteil, ils jouaient que des pornos. Moi, ça me disait trop rien, je les avais déjà vus. J'ai dit à mes copains, y'a un baloche à Sarcelles. On va y faire un saut, y'aura peut-être des morues. Et puis ça fait un bail qu'on sait plus bastonner. Avec de la flicaille ou des garçons bouchés.
C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait.
Et on s'est arraché, direction la castagne, la bière à bon marché. Mais on n'était pas seul, on avait emmené 2-3 amuse-gueules dont le port est prohibé. On veut pas provoquer, moi je suis pas un fondu. Mais faut bien dire ce qui est, je suis pas un ange non plus.
C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait.
Devant la pauvre caissière, on voulait pas payer 25 balles, c'est trop cher. Alors on a profité, pour une fois y'avait pas le service d'ordre de KCP. Pour foncer dans le tas, et puis on s'est pointé direct à la buvette. On s'est enfilé chacun nos 8 canettes.
C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y'aura mon portrait.
De mecs de l'autre côté de la piste qui nous matait à mort depuis un bon moment. On s'est frité avec, c'était vraiment pas triste. Puis on s'est réconcilié devant une bière en se marrant. Nos jours dans les baloches, on s'exprime, on se défoule. À grand coup de manche de pioche, une fracture, ça dessoule.
C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait.
L'espèce de ringard qui jouait de l'accordéon, on y a fait bouffer avec ses bretelles. Maintenant il a une belle paire de poumons nacrés. Et dès qu'il tousse un peu, il recrache des boutons. Quand ça a dégénéré en baston général, on a vu se pointer les milices rurales.
C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y aura mon portrait.
Flingue d'alarme. J'avais l'air d'un con devant la Winchester, de la joint au maire. Il m'a dit n'avance pas, si tu bouges t'es mort. J'aurais pas dû bouger, maintenant je suis mort. Dans la vie mon petit gars, y'a pas à tortiller. Y'a rien de plus dangereux que de se faire tuer. C'est mon dernier bal, j'en ai reçu une. Putain que ça fait mal de crever sous la lune. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y'aura mon portrait. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y'aura mon portrait. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, y'aura mon portrait. C'est mon dernier bal.
Le Ferré Club sur Radio Libertaire 89.4 FM, hein, la voix de la Fédération anarchiste. En FM à Paris, et bien sûr radio-libertaire.quelque chose. Je suis avec Max aujourd'hui, on parle de Renaud. Tiens, avant qu'on continue, je voudrais rebondir sur quelque chose. On a souvent, quand on est amateur ou amatrice d'un chanteur ou d'une chanteuse, on a parfois un petit peu de mépris ou un peu, on a, par rapport aux compiles. Mmh. Or, moi, ce que j'aime dans ton vécu par rapport à Renaud, c'est le fait que tu le découvres via une compile. Et moi, j'aime bien cette dimension.
Bah, je trouve que Renaud est pas forcément un très grand faiseur d'albums, quoi. La dimension album chez Renaud, c'est pas un truc qui est primordial, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, Lesbéton, quand même, est important. Il y en a plusieurs autres, qui sont importants en tant qu'album, l'entité album. Mais Renaud, c'est avant tout un écrivain de chansons. Un peu comme le Léo première période, là, si on veut continuer dans les parallèles avec l'œuvre de Léo, c'est un peu comme Léo première période. C'est un chanteur à single, quoi. On est dans la tradition, chansonnière, on fait une chanson, puis deux, ça fait une face A, une face B, et ça fait des super 45 tours, que on regroupe ensuite sur un album, mais qui a pas forcément un caractère propre qui se développe dans l'ensemble des chansons qui constituent l'album. Ce que je dis, comme je le laissais entendre, il y a des contre-exemples quand même, hein. Il y a bien sûr Lesbéton, qui est une merveille du début jusqu'à la fin, et qui plante vraiment... le décor de là où Renaud, pour moi, va vraiment exceller, ce qui va être l'âge d'or de Renaud, grosso modo, de cet album, le deuxième, Lesbéton, jusqu'à Marche à l'ombre. Les histoires de blouson noir, assez désespéré, mais en même temps rigolard et ricaneur et tout, vraiment, moi, c'est ce que je préfère. Mais il y en a d'autres. Bah, il y a par exemple, là, on vient d'écouter, je crois, le petit bal du samedi soir, qui est pas du Renaud, mais qui est un album que je trouve très très important dans la discographie de Renaud, parce que c'est un live qui a été enregistré lors de ses récitals à Bobino de 1980, où il chantait en deuxième partie son répertoire à lui qu'on évoque là depuis le début de l'émission. C'est à peu près ça. Là, on en est à peu près là dans sa carrière, donc c'est bien ce répertoire là. Ouais. Mais en première partie, au lieu de faire appel à quelqu'un d'autre, bah, il a décidé de faire la première partie lui-même avec l'orchestre de Jos Baselli, si j'ai bonne mémoire, et de chanter le vieux répertoire réaliste qu'il affectionne tant, et de l'offrir donc à son public en première partie. Et c'est sorti en disque l'année d'après, en 1981, toujours chez Polydor. Ça s'appelle Le Petit Bal du Samedi Soir. On entend Renaud y reprendre du Bruant, du Fréhel, La Plus Batte des Java, Mon Gris, tout un tas de standards de la chanson réaliste, La Butte Rouge. Et tout ça, enfin, il y a vraiment plein, un répertoire très intéressant que Renaud exécute avec une maestria, une simplicité et une décontraction bluffante, où je trouve on entend mais parfaitement la simplicité et la générosité de ce mec. L'écoute de ce live, elle est édifiante pour ça, quoi. Tu vois qu'il se régale. Tu l'entends. Il se régale mais il est d'une gentillesse, quoi. Il est d'une simplicité dans sa façon de transmettre tout ça. Il fait ça à sa façon. Il sait très bien qu'il est pas le chanteur du siècle, mais il le fait avec son style à lui, que j'ai déjà expliqué, qui, moi, me séduisait beaucoup. Et vraiment, ce qui en ressort de ce live, c'est une immense générosité. On a envie de partager ses chansons très, très simplement, très humblement avec son public qui les connaît pas forcément, qui viennent bien pour sûr entendre les standards qu'on entendait dans la seconde moitié des années 70 à la radio française de Renaud. Il commençait à y en avoir pas mal quand même, des standards à cette époque-là. Donc Vraiment étonnant. Un autre album qui est tout à fait symptomatique de ce Renaud-là, alors c'est nettement plus tard, c'était pendant qu'il tournait sous la direction de Claude Berry, Germinal, oui. L'adaptation cinématographique du roman de Zola, dont il avait le premier rôle, hein, c'est lui qui jouait l'entier. Hein. Je sais plus trop en quelle année on était, je l'ai noté quelque part, si j'arrive à m'y retrouver dans mes papiers. 93, donc c'est ça, là, c'est la période du Charlie Hebdo dont je parlais. Il chroniquait le tournage dans Charlie Hebdo, c'était très rigolo. Sympa, ouais. Il y avait des scènes de cantine avec Depardieu et Carnet. Ouais. Carnet qui était épique. Parce que, Renaud, Carnet et Depardieu dans la même cantine. Oui, ça, je vous laisse imaginer le stock de bouteilles de pinard qu'il fallait aligner. Le gestionnaire de la cave, il avait du taf. Quoi. Bref, pendant ce temps-là, comme lui, il se sentait un peu pas du même monde que tous ces gens du cinéma. Ouais, il se sentait un peu à part. C'était son premier tournage. Pendant les temps morts, les machins, il allait avec les figurants. Et avec les figurants qui étaient que des locaux, donc des ch'tis, il s'est mis à jouer pendant les pauses le répertoire ch'timi traditionnel de l'époque. Et il en a fait un grand concert à la fin du tournage qu'il a offert à tous les gens du tournage, tous les techniciens, tous les figurants et tout ça.
Ah, super.
Et qu'il a ensuite offert au public en le publiant, alors c'est plus Polydor à cette époque-là, c'est Virgin, donc en 1993, ça s'appelle Cante El Nord. Ouais. C'est que du répertoire ch'timi traditionnel. C'est une pure merveille, ce disque. Encore une fois, voilà, je comprends qu'on n'aime pas, hein, c'est quand même particulier, hein, c'est le répertoire ch'ti, ça parle en ch'ti, c'est de l'accordéon, c'est de la chanson de mineur, vraiment il n'y a que ça quoi, mais c'est superbement bien interprété, avec encore une fois exactement le même état d'esprit qu'on entend dans le live, le petit bal du samedi soir, une humilité, une simplicité et une générosité étonnante de la part de ce mec, de ce petit mec, quoi, qui fait ça hyper modestement, mais tellement gentiment, quoi, que tout le monde...
Avec de l'amour, hein, pour ce répertoire.
T'imagines la fête de fin de tournage où il a interprété ses morceaux devant tout le monde, ça devait être un moment de bonheur.
Ah, je connaissais pas l'histoire de ce... Je connaissais cet album, mais je connaissais pas son histoire. C'est quand même super, parce que là aussi, pour le coup, généreux, partageux. Sympa.
Ah ouais, vraiment, voilà ce que je disais, de ce que le personnage de Renaud, voilà, c'est comme ça que je l'aimais. Et vraiment, à cette époque-là, là, moi, j'étais à fond dedans, quoi. Je le lisais toutes les semaines dans Charlie Hebdo. Il venait de sortir le dernier grand album de sa discographie. Alors, c'était juste après, en 1994. Et tout ça. Enfin, bref, il était quand même revenu avec une certaine forme, une certaine tenue sur le devant de la scène après déjà d'une période un petit peu difficile à la fin des années 80, notamment autour de la mort de Coluche et tout ça.
Ouais, ça l'avait particulièrement impacté.
Ouais, puis artistiquement, c'était pas génial à ce moment-là, faut bien avouer. Ouais.
D'accord.
Et aussi, dans ma façon de juger ses rapports avec le Star System aussi, c'était pas forcément très glorieux non plus, quoi.
Ouais.
Michel Drucker et compagnie, les gros contrats, etc. La pub pour, c'était quoi, Canterbro, je crois. Tous ces trucs-là, ça faisait mal au cul quand même.
Ah, je savais pas qu'il avait fait de pub pour Canterbro.
Ah ouais, bah il s'est fait tomber dessus, hein. Il s'est vite déballonné à dire que le gros chèque qu'on lui avait fait, il le redonnait, je sais à quelle œuvre. Caritative pour les motards accidentés de la route, si j'ai bonne mémoire, ou un truc comme ça. Mais
en rapport avec Coluche, justement ?
Non. En rapport que ça avait fait jaser, que...
Mais le fait qu'il ait choisi de cette œuvre-là particulièrement sur les motards...
Je ne sais plus très bien, là, j'ai plus les détails de l'histoire en tête, mais je sais qu'il a fait un spot de pub aussi. Vu qu'on a presque le même âge, d'avoue, t'as dû le voir à la télé à l'époque, où un spot de prévention pour les motards, où il disait, les mecs, faisaient gaffe... faut pas déconner au guidon, quoi, et tout ça, parce qu'il y avait une grosse mortalité de motards sur les routes de France à l'époque.
Bon, ça, à la limite, c'est plutôt pas mal.
Oui, bah c'est pour
c'est
ça
moins
que commercial. Que la pub pour Canterbro était mal passée.
Bah ouais, j'imagine, ouais, clairement.
L'autre point, puis alors là, qui a un parallèle évident à mon avis, c'est toi qui vas me dire, d'avouer, hein. Attention, hein, c'est toi qui m'initie à Léo Ferré depuis plus de 10 ans maintenant. Mais l'autre gros parallèle qu'on peut faire entre l'œuvre de Renaud et l'œuvre de Léo Ferré, c'est le goût pour les loubards, quand même, me semble-t-il.
Ouais, bien sûr, pour la marge, je te dirais, de manière plus générale, quoi.
Ouais. Alors, c'est vrai que chez Renaud, c'est un... un des côtés qui est hyper séduisant, parce que bon, il y en a des tas, des morceaux comme ça, un petit peu tout au long de sa discographie, mais c'est vraiment, il a eu raison d'insister sur cette thématique-là, parce qu'il a pondu un nombre de morceaux, alors que ce soit la Gérard Lambert parodique, caricaturaux, rigolo, ou à l'inverse, des morceaux très poignants, d'histoires de petits mecs de banlieue, de trajectoires tragiques, de petits mecs de banlieue. Bon, la plus célèbre, c'est Manu, bien sûr, mais c'est pas la seule, hein. Il y en a des tas. Ça, c'est vraiment un des aspects du répertoire de Renaud qui est, à mes yeux, très très important, et que bah, si on n'aime pas ce côté-là, on passera à côté de vraiment ce qui fait tout le sel de l'œuvre de Renaud, quoi. C'est particulièrement incompatible, je pense, Renaud, et un dégoût pour cet univers-là, c'est pas la peine d'essayer. Et bah vraiment, ouais, là j'y vois un des premiers vraiment gros parallèles qu'on peut faire entre l'œuvre de chanson de Renaud et celle de Léo Ferré, comme tu disais, ce goût pour la marge. Et alors, dans le cas de Renaud, de manière un petit peu plus prononcée que chez Léo, le blouson noir,
bien
le
sûr,
voyou,
bien sûr,
le marginal, quoi. Vraiment, ça c'est les portraits de marginaux chez Renaud, ça court les disques, et jusqu'à un certain point, ils sont jusqu'à un certain nombre, ils sont vraiment parfaits. On en reparlera forcément plus tard dans l'émission, parce que ça c'est le point numéro un.
Tu nous en proposes un?
Ouais, je t'en propose un tout de suite à l'écoute, qui est sans doute pour moi l'archétype. Et en même temps, le chef-d'œuvre des chansons de Loubard de Renaud. On aurait pu écouter Manu, on aurait pu en écouter plein, on en écoutera encore, je pense, une autre un peu plus tard, mais la chanson du Loubard qu'on trouve toujours sur l'album Laisse Béton ou Place de ma Mob, suivant comment vous l'appelez, celui de 77, le deuxième album, la chanson du Loubard, c'est tout, quoi. C'est un texte, c'est une orchestration, c'est une composition, c'est une interprétation qui est poignante, qui est fabuleuse, quoi, et qui permet à Renaud, je pense, de comprendre à quel point il a un talent pour ce genre de morceaux-là, puisque c'est le point de départ d'une longue suite de morceaux sur cette thématique-là. Pour certains, tous plus poignants les uns que les autres. Je pense à Deuxième Génération, je pense à Baston, qu'on va immanquablement écouter, j'imagine, aujourd'hui.
Ouais.
La Teigne, etc., etc. Il y en a plein des chansons de cette veine de Renaud, mais alors la chanson du Loubard, c'est sans doute une des toutes meilleures.
Tu sais que Léo a signé aussi une chanson qui s'appelle Les Loubards. Alors, le texte n'est pas de Léo, il est de Jean-Roger Cossimon. Ouais. Mais en revanche, l'orchestration, elle est de Léo et elle est quand même très très belle. Je peux la glisser avec?
Bah, volontiers, ça me semble parfaitement indiqué.
Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux, sérieux. Je suis un loubard parmi tant d'autres, je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute, moi HLM c'est pas Byzance. Mon pote, mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel. Un soir, dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. Stanflé, stanflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche, je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Je suis un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre.
bon Dieu, bon Dieu, oh bon Dieu, bon Dieu, oh mon Dieu.
Le Ferry Club.
Sur.
Sur.
Radio.
Radio Libertaire.
À moitié de chien bâtard, de terrain vague, enchaîné. V'là les loupards, c'est pas la traîne. Ça n'est sa frime, sa bande à part. Ça roule souvent des mécaniques. De mobilettes en Yamaha, mais pour le tennis électronique. Rencard à la cafétéria. Là, là, là. Là, y'a le jukebox, super. Le mec qui frappe au ventre avec ses basses. Et les flippers que l'on tabasse quand ça fait tilt. Offert avec. Des marrons, pas de ferme. Des loulous, des loupards. Des marrons, pas de ferme. Des loulous, des loulous. Lorsque le blues est au maxi, ils se font la paire. Et dans les petits bals populaires, y'a du baston gratuit pour tous. Pour eux, zéro la politique. Le droit de vote, c'est pour les jobards. Quand on leur cause de république, où ça les gonfle, où ils se marrent. Ça leur dit rien, Marx ou Mao, tous dans le même sac. Qu'on soit gauchiste ou anarchiste, ce qu'ils rêvent de voir, c'est le grand chaos. À coup de chaîne, à coup de barre.
Coup de chaîne, coup de chaîne, à coup de barre, coup de barre. Et loulou, et loulou, et loulou, et loulou, et loulou, et loulou, et
loulou, et loulou, et loulou.
Allez bosser, non ? Ça va pas ? Nous ferme l'usine, ta mauvaise mine. Et puis, les salaires de famine, c'est des bonnards pour grand-papa. Connais du pain, connais pas de chance. Comment on crèvera tous, tôt ou tard. À nous le vol et la violence, avec des vacances au moutard. En attendant de s'éparpiller dans le tourbillon des mégatonnes. Dites-nous, au moins, ça vous étonne. Qu'on ne soit pas plus. Et des milliers, en attendant de s'éparpiller dans le tourbillon des mégatonnes. Dites-nous, au moins, ça vous étonne. Qu'on ne soit pas plus. Et des milliers. Des millions, des milliards. De loulous,
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 loulous.
des ravages, on achète. V'là le loup, les loupards, c'est pas la crème. Ça naît, ça frime, ça bande à part. Ça roule souvent des mécaniques, de mobilettes, en Yamaha. Mais pour tennis électronique, rancard, à la cafétéria. Là, il y a le jukebox super, les mecs, qui font en vente avec ses basses et les flippers de l'on tabasse. Quand ça fait tilt, on fait avec. À moitié loup, les chiens bâtards, qu'on les condamne, qu'on les plaigne, pour eux le panard, c'est qu'on les craigne. Et que les bourgeois changent de trottoir. Et filent doux pour pas voir leur loulou, leur loubar.
Et Renaud, dans le Ferré Club, bah, le parallèle, le point commun, le, je veux dire, le ce qui fait d'eux des frères d'armes, en quelque sorte, Renaud et Léo, bah, c'est le côté politique, en fait, de leur œuvre.
Ça, indéniablement.
C'est le parallèle qui vient en premier
et
à l'esprit.
Puis, hein. Même au-delà de leur œuvre, hein, parce qu'il y a aussi leur engagement, je veux dire, à faire des concerts de solidarité, à être vraiment impliqués, ils s'engageaient, hein, de manière individuelle.
C'est vrai, mais déjà, de manière basique, dans leurs chansons, quoi, un tout fond... très développé dans les deux œuvres. Alors bien sûr, Renaud a pas écrit autant de chansons que Léo et tout, donc il y a sûrement un ratio.
Oui, voilà, mais je pense que c'est équivalent.
Mais
hein.
Voilà, le, si on fait justement un taux, un ratio ouais, voilà. du nombre de chansons engagées sur le nombre de chansons écrites total, on doit être dans un ratio à peu près équivalent, effectivement. Peu ou peu, ouais, et ce qui nous séduit, toi et moi, je le sais, dans ce point commun qu'ont Léo et Renaud, bah, c'est bien sûr que c'est notre engagement à nous également. Hein. C'est un engagement libertaire, profondément libertaire, avant tout libertaire. Ouais. Hein. Chez Renaud, on est vraiment dans cet esprit-là. Alors, il se revendique parfois anarchiste, parfois anarcho-mitterrandiste. Ouais. C'est vous dire s'il a l'anarchie très large. Nous, bon. On n'ira pas jusque-là.
Cela dit, je ne sais même pas si ça existe, mais ça l'excite.
Alors, alors, libre à lui, tant mieux pour lui si ça l'excite, si ça l'excitait. En tout cas, dans les années 80. Ah, ça, son idolâtrie de Mitterrand, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais ouais, bon, on n'est pas là pour ça.
Non, carrément pas, quoi.
Non, je préfère pas. Et alors, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que relativement inconsciemment, je pense encore, mais j'entendais en lui la voix d'un vrai anticonformiste. Mmh. Ce que j'étais vraiment déjà à l'époque, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais je le savais pas. Et j'ai mis très longtemps
dans l'anticonformisme.
Dans l'anticonformisme, ouais. Donc quand j'écoutais mes fameuses cassettes de Renaud dans ma salle de bain, là, je l'étais déjà, mais je l'ignorais complètement, quoi. Et maintenant, je sais que mon oreille, mon cerveau, inconsciemment captait ce point commun entre lui et moi. Ça s'entendait, c'était
tu
évident.
Percevais cette dimension.
Ah ouais, ça me parlait, mais vraiment à fond, ce côté-là, hyper anticonformiste. Et l'autre côté qui m'a toujours beaucoup plu chez Renaud, bah, c'est son engagement directement pacifiste. Il a, à la fois dans ses chansons et aussi, comme tu l'as laissé entendre tout à l'heure, dans ses engagements personnels, un vrai engagement pacifiste. Et ça, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup séduit. Dans, j'en reviens encore, mes cassettes de ma compile, toujours volume 2, il me semble, on trouve Déserteur, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais même pas la version
de Vian
à l'époque. Hein. Donc, je me suis pris le Déserteur de Renaud direct, comme ça, toujours dans ma baignoire ou ma douche, là, direct dans la gueule, quoi, sans capter l'adaptation de la chanson de Vian, ni rien. Ce texte m'a parlé à 200% dès sa première écoute. Bon, l'orchestration, elle a moins bien vieilli, enfin, dans mon oreille vieillissante, elle passe moins bien. Mais le texte, par contre, il est toujours aussi énorme. Cet engagement de Renaud dans ses chansons, qui vraiment trouvait une profonde résonance en moi, dans mes idées qui étaient en train de se construire, et c'est pour ça que je pense que ce que je disais tout à l'heure, je le répète un peu, mais que Renaud a... en tout cas à travers ses chansons de 1977 à de 1976, allons, soyons pas 75 même, allez, soyons pas exclusifs, de 75 à 87, 8, 90, 11, a beaucoup beaucoup servi à la construction de ma base idéologique.
Quand tu dis 75, tu penses à un album en particulier ?
Ouais, bah c'est non, mais c'est tous les grands albums, quoi. Les albums de Loubar, les albums noirs, d'accord, les albums sombres, c'est Les Béton, c'est Ma Gonzesse, c'est Marche à l'ombre.
Quand est-ce que sort le premier album de Renaud ?
Je suis pas sûr à 100% parce que je l'ai pas noté, mais je crois que c'est 75. Ouais, ouais. Je suis quasiment sûr. Et sur lequel on trouve déjà plusieurs très très belles chansons, dont un certain nombre engagées, dont une qui était sur ma compile volume 2, Société tu m'auras pas, qui est un petit peu stéréotypique, quoi, mais qu'on pourrait taxer, je peux tout à fait l'entendre, de naïveté, mais bah, qui parlait parfaitement bien à un jeune garçon de 15-16 ans, et même quand je l'écoute encore maintenant, moi, il n'y a pas de problème avec le contenu de cette chanson, effectivement. Donc l'engagement de Renaud, au-delà du point commun avec Léo, qui me fait en parler aujourd'hui à ses micros, c'est vrai que c'est un des charmes fondamentaux qu'a eu Renaud sur moi quand j'étais adolescent. Cet anticonformisme rebelle de Renaud, même si certains peuvent le trouver peut-être de pacotille, au regard de la carrière qu'il a fait dans les années 80, ses albums de 75 à 1980, pour moi, ils comptent énormément, et tout ce qu'il a pu faire ensuite, même après sa mort en l'an 2000, n'invalide pas cette période-là de sa carrière et de son œuvre.
On s'en écoute une, alors, du coup
Va être Déserteur, forcément.
Bah oui, ça tombait sous le sens, bien évidemment.
Parce qu'en plus, il y a une petite phase cannabique, en plus, dans Déserteur. Donc, je ne pouvais pas demander de passer Déserteur, qui est la base de certains de mes engagements, c'est certain.
Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés et puis les militaires. Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi. Dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas, je suis là avec des potes, des écolos marrants, on a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser des chèvres, on fabrique des bijoux, on peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares, d'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard, non c'est pas du Ricard. Président, je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux, je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut, plus souvent qu'il ne faut. Surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait ? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi, j'aurai l'air malin avec ma bicyclette, mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et
va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Président, pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
Je suis avec Max cette semaine et bien je t'ai convié Max à nous autour du micro pour nous présenter un peu ton Renault, hein, avec des guillemets à ton Renault, mais voilà, ta perception d'individu sur l'œuvre de Renault, et aujourd'hui, bah, tu partages avec nous quelques souvenirs et quelques chansons.
Ouais, puis quand tu m'as proposé ça, ça fait déjà un bon gros mois et demi, y a un sujet que je me suis dit tout de suite, ça, il faut que j'en parle. Mais c'est pas très évident d'en parler, tu vois, en réfléchissant un petit peu à ce qu'on allait dire dans cette émission, je me suis rendu compte que cet aspect-là de Renault, il est un peu particulier, moi j'y suis très sensible, mais en fait, tu vois, je cherchais des morceaux pour illustrer cet aspect-là de Renault, et puis bah, j'en ai pas vraiment trouvé, j'ai pas trouvé l'exemple parfait que j'aurais voulu avoir. Cet aspect-là, qui m'a énormément parlé aussi très rapidement quand j'ai découvert Renault à l'adolescence, c'est son rapport, cette espèce de tendresse nimbée d'une profonde nostalgie qu'il a à l'enfance, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de l'enfance, de cette période de la vie de tout un chacun, toute une chacune. Renault, ça imprègne beaucoup son œuvre, cette dimension-là. Il en parle dans plein de chansons, bien évidemment, mais c'est souvent des allusions, c'est pas forcément des chansons
directement
qui sont
le thème.
Il y en a, il y en a. Hein. J'ai fait un petit inventaire quand même pour essayer de trouver ce fameux exemple parfait que je voulais vous proposer à toi et aux auditrices, aux auditeurs du Ferré Club pour illustrer mon propos, mais malheureusement, j'ai pas trouvé cet exemple parfait. Il y en a plein, il y en a certains encore.
C'est plus un peu partout dans ces chansons, en fait, que tu as.
Ouais, puis dans le bonhomme, dans la philosophie du bonhomme, dans le langage du bonhomme, dans l'attitude du bonhomme, dans les thématiques du bonhomme, dans sa façon d'aborder certaines thématiques très sérieuses, cette espèce de volonté de garder un fond de naïveté, cette espèce de volonté de garder un gros fond d'idéalisme, ça c'est très important pour moi, cette volonté de pas vouloir accepter toute la brutalité du monde des adultes, toute la vulgarité du monde des adultes, de garder vraiment, j'aime pas le mot âme, mais une âme d'enfant, quoi, selon l'expression.
On l'utilise sans y mettre ce mot-là, hein, entre nous.
Voilà, mais bon, voilà, moi ça c'est vraiment une dimension de Renault qui m'a énormément touché très rapidement, là, dès 1990, l'année où j'ai dû découvrir